France Inter.
Un Black Swan, on se sent toujours très puissant, très grand. On a dominé la nature, on est au sommet de, entre guillemets, de la chaîne alimentaire. Et puis on se rend compte très vite que tout ce qu'on pense avoir construit, ça vaut pas grand-chose finalement.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Chaque après-midi, une heure pour mieux comprendre notre époque au travers d'un mot, d'une expression, d'un concept contemporain qu'on décortique avec un spécialiste. Et aujourd'hui, un mot qui a d'abord enthousiasmé Manon et Quentin pour la simple et bonne raison que, fait rare dans l'histoire de Zoom Zoom Zen, ils le connaissaient. Oui, on a même vu le film, se sont-ils exclamés, et c'était touchant lorsque je leur ai annoncé qu'on allait zoomer sur le phénomène Black Swan. Quand ils ont compris en voyant ma gueule que le film avec Nathalie Portman n'avait rien à voir avec notre sujet du jour, ils ont légèrement déchanté. Puisqu'en effet, aujourd'hui, on va se pencher sur les événements de type Black Swan, les signes noirs. Ces événements qui, statistiquement, ne devaient pas arriver, ou en tout cas avaient une chance très faible d'arriver, et qui sont arrivés quand même. Le 11 septembre, l'éruption du Vésuve et Pompéi, le confinement, ou plus proche de nous, vendredi dernier, le prix des visionnaires du développement urbain remis à Anne Hidalgo. Vrai, info. Voilà un signe noir, cet événement que personne n'avait vu venir et qui survient quand même. Alors comment détecter les signaux faibles pour anticiper un signe noir? Est-ce seulement possible? Ou bien, si c'est possible de prévoir l'imprévisible, ce n'est plus un signe noir. Nous allons aborder toutes ces questions, mais j'aimerais d'emblée, cet après-midi, alors que les plus odieuses rumeurs circulent, réfuter l'accusation grotesque selon laquelle, pour des raisons de week-end à Las Vegas, Cyril Lacarrière, notre précieux rédacteur en chef et présentateur emblématique du Douce Assort, séquence culte de notre programme, serait absent en ce lundi après-midi. Les infâmes insinuations allant jusqu'à dire qu'il serait même de retour sur le sol français, mais que, souffrant du jet lag et de l'inconfort de la classe premium éco de Delta Airlines, il aurait préféré encore s'économiser jusqu'à demain. C'est bien évidemment totalement faux. La preuve, il est bel et bien avec nous cet après-midi en studio. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Monsieur Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Quel plaisir de vous retrouver. Alors c'était bien Vegas.
Bonjour Monsieur Noël, bonjour à toutes, bonjour
oui.
à tous.
Bon bref, Zoom Zoom Zen au grand complet, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Et on accueille Bruno Tertrais aujourd'hui. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, un des principaux think tanks français sur les questions de sécurité internationale. Vous publiez chaque mois une chronique géopolitique dans l'hebdomadaire Le Point. Vous êtes l'auteur notamment de l'Atlas des frontières, de l'Atlas stratégique et militaire sorti cette année aux éditions Autrement, et tout récemment de La guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires aux éditions de l'Observatoire. Bruno, ensemble on va détailler ce qu'est un Black Swan, comment on est chaud, on essaiera même de détecter le prochain. Mais en attendant, en termes d'événements imprévisibles que personne n'avait vu venir, mais qui pourtant va avoir lieu, puisqu'ils se sont officiellement inscrits, je vous présente Manon Mariani et Quentin Lui, qui représenteront Zoom Zoom Zen à la prestigieuse soirée karaoké de France Inter demain soir, où ils chanteront Sous le vent. Quentin sera garou, Manon Céline, ils s'y sont engagés, ou plutôt Quentin s'y est engagé pour deux.
Non, mais non, ouais,
à travers un mail assez définitif que je vous restitue tel quel, Manon Mariani et Quentin Lui seront présents à la soirée karaoké et ont d'ores et déjà répété le tube Sous le vent. Ne pensant pas que Quentin irait sans son consentement jusqu'à préciser la chanson qu'ils interpréteraient, Manon était furieuse, elle a tenté de les désinscrire, elle a bombardé Quentin de vocals pendant tout le week-end.
Par contre, vraiment, je te le dis sans blague aucune, never je chante sous le vent. Hein. Non mais, MDR, va y avoir toute la direction et compagnie. Je me suis déjà affichée dans un bar à 2h du matin la semaine dernière. Crois-moi, c'est pas prêt de se reproduire.
Mais non, c'est trop tard, Manon. C'est trop tard. Il faudrait être à la hauteur de cette légende que Quentin a décidé d'écrire pour vous deux. Bonjour, mes petits champions.
Bonjour, bonjour Mathieu. Bonjour,
bonjour
tout
à
monde.
Tous.
Non, mais elle m'a lâché. Non, elle le dit, on a répété dans un bar à 2h.
Tout n'est pas perdu,
Quentin.
C'est
ça pour rire.
Je travaille pour vous. Manon, avant de vous afficher demain soir devant tout le COMEX, vous allez nous livrer votre traditionnelle veille sanitaire au programme du jour.
Je vous débriefe le mauvais week-end de la plateforme de vidéo Twitch. Elle avait mis en place des nouvelles règles plus laxistes concernant la nudité sur les streams, sauf qu'en à peine 48 heures, tout a explosé. Je vous explique ce qu'il s'est passé dans ma veille sanitaire.
Face à vous, Bruno Tertrais, a-t-il parlé trop vite en annonçant à toute la boîte qu'il chanterait Sous le vent en duo avec Manon demain soir? Se retrouvera-t-il seul sur la scène du karaoké? Hélas, le dernier vocal de Manon ne permet pas d'écarter cette possibilité.
Tu vas nous faire un bon solo des familles sur Pascal Obispo, ça va être vite vu cette histoire.
J'aime bien ce petit rire à la fin. Ah oui. Quentin, quoi qu'il arrive, vous ferez front, l'adversité,
la
ça vous connaît, puisque je rappelle que vous avez connu pire dans votre carrière de chanteur. Un soir, vous avez même fait la première partie de Corbier. Heureusement, la gloire que vous n'avez pas trouvée dans la chanson, vous l'avez trouvée dans le micro-trottoir.
Et je suis allé me consoler dans le quartier de la Défense. Drôle de lieu, me diriez-vous, mais un lieu qui pourrait être impacté par un prochain Black Swan, puisque financier. Mais alors justement, quel sera le prochain Black Swan? C'est la question que je vous pose avant 16h30 dans ce micro-trottoir complètement à la rue.
Vers 16h30, nous jouerons avec les les signes noirs dans le Zoom Zoom Test. Benjamin Tranier nous rejoindra en fin d'émission. Mais d'abord, Bruno Tertrais, est-ce que savoir que quelque chose peut arriver, que ça peut bouleverser potentiellement le monde entier, tout en se disant que ça a très peu de chances d'arriver, mais que c'est pas impossible, est-ce que c'est pas jouer tout simplement à se faire peur? Est-ce que ce concept d'événement Black Swan dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment intéressant pour la recherche stratégique?
Et oui, c'est intéressant, mais c'est intéressant aussi pour notre vie de tous les jours. Vous savez, un signe noir... Alors, d'abord, le terme lui-même, il a été proposé par un monsieur qui s'appelle Nassim Nicholas Taleb.
On va y revenir dans un instant sur la genèse.
Je vous raconterai, parce que moi, je le connais, j'ai des anecdotes sur lui.
Mais vous nous direz des trucs un peu croustillants après.
Non, pas forcément croustillants. Mais ça nous concerne dans notre vie de tous les jours. Moi, je peux vous donner des exemples de Black Swan, de signes noirs, ouais, qui pourraient vous concerner demain. Par imaginez qu'il y a une tempête solaire, un événement astronomique très rare, mais très difficilement prévisible, qui, tout d'un coup, empêche les réseaux de communication de fonctionner normalement. C'est un petit peu gênant quand on travaille à France Inter, par exemple.
Mon Dieu, plus d'émissions.
Voilà.
Mais en quoi ça, cet exemple-là, ça serait un signe noir si on sait qu'il y a des tempêtes solaires? On peut juste.
Et voilà. Non, mais c'est bien là le problème. La plupart de ces fameux signes noirs, on peut les imaginer. Et donc, à partir du moment où on peut les imaginer, on sait qu'ils peuvent se produire. Et donc, c'est pas totalement un signe noir. Le problème fondamental, c'est que nos sociétés, nos dirigeants politiques en particulier, tous les dirigeants d'ailleurs, pas seulement politiques, ils ont tendance à se focaliser sur ce qui est urgent, ce qui est certain, plutôt que ce qui pourrait éventuellement arriver.
C'est humain.
On repart. Exactement. Le problème, c'est la nature humaine. On parlera peut-être des pandémies,
si vous voulez,
mais typiquement, la Covid-19, c'était quelque chose de totalement prévisible, mais qui pourtant, pour lequel on n'était pas vraiment préparé.
On va évidemment y revenir dans cette heure avec vous. Il nous revient de Las Vegas fourbu et fauché, et à son regard moribond, je vois bien que ce n'est pas le moment de l'interroger sur son week-end. Je ne vous embête pas, Cyril, dites-nous seulement ce concept de Black Swan, d'où ça sort?
Un signe noir a été découvert en Australie au XVIIIe siècle. Incroyable, non?
Fou.
Plus près de nous, en 1960, au Liban, nous avons découvert Nassim Nicholas Taleb. Et c'est lui qui a théorisé le concept des signes noirs. Mais nous, on a choisi Black Swan, histoire de faire les malins, comme d'habitude. Je vous présente quand même l'inventeur, écrivain, statisticien, essayiste spécialisé en épistémologie des probabilités. Eh oui. Et praticien en mathématiques financières. Son éditeur le présente comme un des essayistes les plus impertinents et influents de notre temps. En 2007, Nassim Nicholas Taleb publie « Les signes noirs, la puissance de l'imprévisible ». Le livre devient un best-seller. Et qu'est-ce que dit Taleb? Que quoi qu'en pense Quentin lui, le monde n'est pas prévisible. Qu'en fait, l'histoire avec un grand H est rythmée par des événements extraordinaires et imprévus. Mais une fois que c'est arrivé, on se dit, comme Quentin, que c'était prévisible.
Mais pourquoi vous nous parlez de Quentin?
Eh bien parce que quand on a commencé à travailler sur ce sujet, il m'a dit que c'était du bullshit, son truc à Taleb.
C'est très vrai.
Qu'évidemment, tout était prévisible, qu'une crise sanitaire, il y avait déjà eu, même chose pour la crise financière de 2008, et c'est vrai. Mais. Déjà, Quentin, t'es pas un des essayistes les plus impertinents et influents de notre temps.
Pas encore.
Et ensuite, t'as compris le truc. Tout le côté inattendu s'estompe dès que l'événement s'est produit. Et j'en reviens à mon signe noir d'Australie. À l'époque, le terme de signe noir désigne une observation qu'on n'a jamais faite. En fait, avant ce signe noir, les signes sont blancs et basta. Eh bien non, pas tous. Il peut y en avoir des noirs. C'est la dissonance statistique. Certains appellent ça le destin, d'autres le hasard. Alors, est-ce que des black swans nous pendonnaient, tapis dans l'ombre des improbabilités statistiques? Qu'est-ce qu'on apprend de ceux qui sont déjà apparus? Y a-t-il de bons et de mauvais signes noirs? Est-ce qu'on ne joue pas à se faire peur? Est-ce que le destin, ça existe? Et pourquoi on n'a pas invité Nathalie Portman? C'est ce qu'on va voir durant une heure.
Sacré Cyril. Merci Cyril, et vraiment, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. Bruno Tertrais, on n'a pas découvert avec Nassim Nicholas Taleb que le monde était imprévisible. Pourquoi soudainement, grâce à son livre, c'est devenu un sujet d'étude?
Parce que Nassim Taleb, d'abord, il a un titre génial. Il a un bouquin totalement incompréhensible aussi pour le commun des mortels, mais qui fait super bien sur votre bureau ou sur la table du salon.
Alors, ça s'appelle comment?
Oui, parce que il faut l'avoir. Attention, c'est un type, moi encore une fois je le connais un tout petit peu, c'est un type effectivement qui est un génie, c'est suprêmement intelligent, extrêmement désagréable et très drôle.
Il est tout ça à la fois.
Et je me souviens quand j'avais eu cette conversation avec lui il y a quelques années, il me disait, je commence à en avoir marre que tout le monde parle de signes noirs parce qu'en fait ils n'ont rien compris, personne n'a rien compris à ce que c'était qu'un signe noir. Parce que c'est devenu quasiment passé dans le langage courant pour parler des événements qui ont un impact majeur et puis qui nous tombent sur la figure du jour au lendemain. Mais ce livre a eu un succès phénoménal, encore une fois, j'en suis persuadé, d'abord et avant tout, parce qu'il donne l'impression d'être intelligent, même si vous ne l'avez pas lu complètement. Moi, j'aimerais bien pouvoir écrire des livres comme ça. Les miens sont peut-être plus faciles à lire, mais en tout cas, ils ne donnent pas l'impression d'être aussi intelligent. simplement en les achetant. Alors, le signe noir, en fait, dans le domaine de la prospective, qui est un domaine que je connais un petit peu, on parle plutôt parfois de rhinocéros gris.
Ah, j'aime bien ça.
Eh oui, sympa. Ça veut dire que le vrai signe noir, c'est extrêmement rare. Le truc qui était complètement imprévisible, c'est extrêmement rare. Taleb, par exemple, qui était effectivement d'abord un mathématicien, un statisticien, qui travaille dans le monde de la finance, il dit que la fermeture de Wall Street pendant plusieurs jours après le 11 septembre 2001, ça c'était pour lui totalement imprévisible. Alors que le crack boursier, c'est pas un vrai signe noir, puisqu'il est, il est prévisible. Ouais. Le crack de 1987, par exemple, ça commence à remonter, puisqu'il y a un très grand crack financier, c'est plutôt un rhinocéros gris. De même que la pandémie de Covid-19, une pandémie mondiale à partir d'un virus de type grippal, ça c'était écrit dans tous les ouvrages de prospective, dans tous les rapports gouvernementaux. Donc, je le sais, je suis payé pour le savoir puisque j'ai participé à l'écriture de certains d'entre eux. Donc c'est plutôt un rhinocéros gris qu'un signe noir.
La pandémie Covid, c'est un rhinocéros gris. C'est ça qu'il faut retenir de cette première partie. On fait une première pause musicale dans cette émission avec Cocoon, I Can't Wait sur France Inter.
Zoom Zen sur France Inter.
Le saviez-vous, la pandémie de Covid n'est pas un signe noir, un black swan, un de ces événements qui avaient peu de chances d'advenir mais qui sont arrivés quand même, c'est un rhinocéros gris. Voilà, c'est ce qu'on peut dire à ce stade de l'émission. Il faut vraiment établir la nuance. Zoom sur ce concept de signe noir avec vous, Bruno Tertrais, vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Les signes noirs, si je vous écoute, ça peut arriver dans tous les domaines, pas forcément en géopolitique.
Non, pas seulement. Ça arrive d'abord et avant tout dans le domaine scientifique, même dans l'astrophysique. On parlait tout à l'heure de l'exemple de la tempête solaire. Ouais. Ça pour pourrait être un astéroïde, par exemple, qu'on n'a pas du tout repéré parce qu'il arrive dans le mauvais sens et que les télescopes ne l'ont pas repéré et qui nous arrive dans la figure d'ici un mois. J'exagère un peu. On a de plus en plus d'outils qui permettent de les détecter très à l'avance. Donc, je ne suis pas en train de vous dire...
Oui, mais ça s'avère emblématique d'un signe noir, parce que c'est vrai que...
Exactement, mais plutôt d'un rhinocéros gris, puisque la détection des astéroïdes, on sait qu'il y a quand même il y a eu des films, voilà, dans la culture populaire, on sait que ça peut nous arriver un jour sur le coin de la figure, et c'est justement pour ça qu'on essaie de les détecter de plus en plus tôt. Ça peut être dans le domaine climatique. Alors, certains ont parlé de l'arrêt du Gulf Stream. Vous savez, le Gulf Stream, ce courant transatlantique qui, en gros, nous permet d'avoir un climat plutôt tempéré en Europe occidentale. Alors, c'est discuté chez les climatologues. Il y en a qui disent que, ok, c'est un vrai risque et ça serait... Alors là, pour le coup, on aurait moins 40 en hiver en ce moment au lieu d'avoir moins 4. Et d'autres qui disent, ok, c'est possible, mais on pense qu'il pourrait repartir très vite. Voilà typiquement le genre de scénario qui n'est pas dans le domaine géopolitique et qui peut avoir un impact, encore une fois, sur notre vie quotidienne.
Vous prenez l'exemple du Gulf Stream qui est un événement climatique, mais tout ce qui est montée du niveau des océans, extinction des espèces, migration climatique, tout ça en revanche, c'est pas du tout des signes noirs parce qu'on a tous les éléments pour les...
Alors
pour
d'abord, ce sont des évolutions plutôt que des événements. Un signe noir, ou un rhinocéros gris,
c'est un événement.
Vous avez suivi, c'est un événement soudain et qui a un impact majeur et qu'on considère sur le moment comme étant imprévisible. Et puis, rétrospectivement, on se dit, ah ben non, en fait, on avait les signaux pour le prévoir.
Quand on entend donc Emmanuel Macron se demander qui aurait pu prédire la crise climatique, on est d'accord que lui, il pense peut-être que c'est un signe noir, mais il est le seul, quoi.
Ouais, mais je pense que c'est une expression. Il s'est exprimé de manière, comme ça lui arrive assez souvent, il faut bien le dire, de manière un petit peu rapide. Simplement, il a dit, bah voilà, il y a eu une canicule, il y a eu une période de temps extrêmement chaud à ce moment-là, et que c'était pas. Lui ne l'avait pas prévu, mais tout le monde sait que les canicules ont plutôt tendance à se multiplier.
L'événement en soi ne se prévoit pas, mais est-ce que les conséquences se prévoient? Parce que par moment, on pense plus aux conséquences qu'à l'événement.
Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, personne ne peut savoir exactement ce que seraient les conséquences pour nous tous, pour l'économie, pour la vie en société, d'une très grave attaque cybernétique. Une attaque cyber. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme les virus. Ça peut avoir des effets secondaires extrêmement difficiles à prévoir. Donc, vous avez raison. Le problème, c'est pas seulement l'événement. Est-ce qu'il peut se produire, mais aussi, est-ce qu'on peut prévoir ces conséquences du premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre, etc., dans un monde de plus en plus interdépendant, de plus en plus interconnecté? Donc c'est vrai, c'est peut-être ça le problème. On peut avoir l'imagination fertile, on peut se garder de ce que le secrétaire à la défense américain Donald Rumsfeld appelait un échec de l'imagination, en parlant du 11 septembre. C'est un échec de notre imagination, mais de là à, même si on a de l'imagination, prévoir toutes les conséquences ensuite est encore plus difficile.
Moi, je vous entends, mais si on revient sur un plan purement théorique, du moment où on est face à un vrai signe noir, on ne peut rien prévoir. Parce que si c'est du moment où on a prévu quoi que ce soit, on a anticipé un minimum,
c'est vrai.
C'est plus un signe noir.
Vous avez raison. Et c'est pour ça que le bouquin de Taleb, en fait, il est très dérangeant. Parce que ce qu'il nous dit, fondamentalement, pour ceux qui ont encore une fois bien voulu le lire et pas seulement l'acheter, à mon avis, il y a un ratio de 1 à 10 entre ceux qui l'ont acheté et ceux qui l'ont lu, c'est que l'histoire, en fait, est beaucoup plus marquée par des événements extrême par ces signes noirs que par les évolutions de long terme que nous connaissons. Et ce qui peut rendre un petit peu pessimiste, effectivement, sur notre capacité à préparer l'avenir, même si on peut avoir, moi j'ai quelques idées quand même sur la manière dont on peut améliorer, là. On parle de résilience, mais il faut aussi parler d'entraînement de la pensée, c'est-à-dire savoir, pour les responsables politiques, savoir prendre 2 ou 3 heures de temps en temps pour dire voilà, qu'est-ce qui se passe s'il se passait ceci, qu'est-ce qu'on ferait? Ça s'appelle entraîner des muscles mentaux pour dire, ben voilà, le jour où l'événement arrive, je ne suis pas totalement dépourvu parce que j'y ai un petit peu réfléchi. Mais ça, demander à un responsable politique, quel qu'il soit, de prendre 2 ou 3 heures juste pour réfléchir, malheureusement, c'est assez difficile. Non pas parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils sont consommés par l'instant.
Peut-être que c'est difficile d'être prêt sur tous les domaines et qu'un événement qu'on peut voir arriver comme un signe noir en entraîne un autre et qu'on n'arrive pas à tout gérer en même temps. Je pense à la sécurité.
C'est vrai, mais il y a quand même des domaines où on peut faire un peu mieux. Encore une fois, je reprends l'exemple de la pandémie de Covid-19 parce qu'elle elle parle à tout le monde. Là, c'est typiquement un scénario sur lequel certains ministres avaient réfléchi à l'avance, sur lequel nombre d'analystes avaient dit, attention, le risque d'une pandémie, dans une nouvelle pandémie grippale majeure, on l'a un peu oublié parce que la dernière, c'était en gros la grippe de Hong Kong en 1968. Ça a fait des millions de morts, mais personne ne s'en souvient. C'était pas aussi grave que la Covid-19, mais c'était quand même il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis, à l'époque, le ministre de la Santé, il dit, bah oui, effectivement, il faut réfléchir à ça, il faudrait qu'on ait des masques, voilà. Et puis le jour où il dit, entre le jour où il dit, il faudrait qu'on ait des masques, et le jour où on en a réellement besoin, bah, il s'est passé qu'on n'avait plus le budget, qu'on les a stockés quelque part et qu'ils ont pourri, etc. etc.
Mais du coup, tous les pays n'ont pas réagi de la même façon, pour le coup.
C'est vrai que là, pour le coup, quand il y a un événement majeur de ce type-là, chaque pays va réagir avec ça. D'abord, il va réagir pour lui-même. Chaque fois qu'il y a un événement extrême, c'est les égoïsmes nationaux qui priment sur la coopération internationale. Avec sa culture, avec ses moyens, il y a les pays qui étaient des îles, il ne vous échappera pas que c'était plus facile pour eux de fermer les frontières, etc., etc.
Quentin, c'est la question que nos auditeurs se posent. Comment vous vous en êtes sorti avec ce Black Swan, qui pour le commun des mortels reste donc avant tout un film de Nathalie Portman. Le micro-trottoir, ça s'est bien passé?
J'ai galéré, il est 11h20, je sors de la maison de la radio pour me rendre sur un lieu qui pourrait un jour être frappé par la notion du jour. Je suis en retard, je monte dans le taxi. Et bonjour.
Bonjour, je vous dépose où?
La Défense.
La Défense, ok, très bien.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'au Parvis?
Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Nous les taxis, on a accès à ce qu'au Parvis. Donc je vais pouvoir vous déposer.
Je fais la connaissance de Sofiane, chauffeur de taxi, à qui j'explique notre émission et ces mots que personne ne connaît.
Un black swan, Alors je parle pas l'anglais.
Ça veut dire signe noir.
Un signe noir. Un signe noir est un événement imprévisible qui sort des attentes classiques que l'on aurait.
Ouais. Des événements qui arrivent et qui chamboulent un peu la société.
Ah ouais, qui chamboulent, bien sûr.
Les attentats du 11 septembre.
Ouais.
Le Covid.
Okay.
Par exemple,
ouais.
La crise financière de 2008.
Ouais, tu m'étonnes, parce que de toute façon, quoi, tous ces événements, ils ont chamboulé. Tu vois très bien que les gens aujourd'hui, quoi, c'est plus les mêmes qu'avant, qu'ils ont changé, que. Mais je crois que le 11 septembre, c'est le premier gros événement qu'on a eu.
Dans l'histoire récente, Sofiane a sûrement raison, au point qu'on se souvienne tous où nous étions ce jour-là. Je demande à mon chauffeur de taxi ce qui pourrait être le prochain événement imprévisible.
Le prochain Black Swan? Avec tout, qu'est-ce qu'on a eu? Il reste plus qu'une météorite ou un astéroïde qui nous tombe sur la tête. Ouais, c'est Armageddon, quoi, c'est le film, voilà. C'est que les films, des fois, ils sont réalistes, hein.
Mais oui, les films, des fois, ça marche bien. Mais c'est normal parce que, enfin, là, une météorite, on devrait la voir arriver et de loin, mais notre invité disait que c'était pas forcément le cas. Mmh. Je marche au pied de la Grande Arche de la Défense quand ce monsieur, très classe, costume gris, cheveux poivre et sel, chemise blanche, passe devant moi.
Bonjour, monsieur.
Ça va?
C'est quoi votre prénom?
Martin.
Martin, vous avez quel âge?
Quel âge? 50. 51. A black swan. So it's a black swan. It's something unique, I would say.
J'ai envie de dire que c'est quelque chose d'unique. Si je dois imaginer le prochain black swan en termes de crise, pour être honnête, je pense qu'un black swan est déjà en train d'arriver quand vous observez le monde actuel.
Forcément, l'air du temps n'invite pas forcément à l'optimisme quand je suis dans ces conversations dans la rue. Je fais la connaissance d'Ombeline, 28 ans, coordinatrice de sûreté, qui travaille dans la sécurité privée au milieu des tours de verre de la Défense. Je lui demande si ça l'effraie, un black swan.
Oui et non. Oui, parce que c'est dramatique, et non, parce que c'est mon métier de les anticiper et de réagir face à ça. On peut anticiper des scénarios.
Donc ça, c'est votre métier ?
C'est parce que c'est mon métier.
Vous avez le droit de me dire quel type de scénario vous avez déjà travaillé ?
Depuis les attentats ces dernières années, on travaille particulièrement sur des attaques, qu'elles soient à l'extérieur, des intrusions armées, des colis suspects, donc des alertes à la bombe, des attaques avec produits chimiques.
Black Swan, c'est votre pire cauchemar, vous. Un truc imprévisible qui arrive et qui chamboule tout.
Après, ça reste aussi le métier de la sécurité, gestion du stress et intervenir face à l'imprévisible.
Un Black Swan, c'est aussi savoir y faire face quand ça arrive, et ça, Ombeline, ne l'oublie pas. J'arrête cette femme, grande, bonnet écharpe, qui travaille ici.
Bonjour.
C'est quoi votre prénom ?
Claire.
Claire, vous faites quoi dans la vie, vous ?
Je suis data scientist. Un Black Swan. Alors, je connais le film Black Swan. La théorie du signe noir développée par le statisticien Nassim Taleb. C'est un petit peu la honte du coup, mais non, je ne connaissais pas.
C'est pas la honte.
C'est un outlier, nous on dit. Enfin, on appelle ça des outliers, des événements qui ont une faible probabilité de se produire. Voilà.
Un autre parallèle. Comme Claire est une femme de data, je lui demande ce qui, selon elle, pourrait être...
Moi, j'ai l'impression que le prochain Black Swan, il est un peu connu. C'est la crise climatique auquel on va faire face.
Et le problème, c'est que le Black Swan, c'est une date clé.
Ah oui.
Et quel événement climatique pourrait nous alerter, nous mettre à l'arrêt ?
Si, peut-être, on parle parfois du dégel du permafrost. Est-ce qu'on peut s'imaginer que le dégel du permafrost, ça amènerait un virus, par exemple, qui pourrait se répandre assez rapidement dans la population sur une très courte période ?
Et on en revient à une pandémie venue de la préhistoire. Vu la taille des mammifères de l'époque, ça va nous faire drôle. Mais pourquoi pas un bug informatique ?
Un bug informatique ? ce serait peut-être un bug informatique qui permettrait, je sais pas, la margie de tous les gens, c'est-à-dire l'effacement total de la dette. Pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant comme Black Swan. Enfin, je doute que ça puisse se produire. On a quand même des backups à plusieurs endroits du globe. Je pense que là, on est sur un événement qui est presque impossible, je dirais, mais je pense que c'est très improbable.
Et c'est justement le cas de tout bon Black Swan qui se respecte. Intéressant de savoir que les banquiers ont anticipé les bugs mondiaux pour éviter de tout perdre. Dernière rencontre du jour, Vincent, designer à la Défense.
Un Black Swan.
Est-ce que vous savez ce que c'est ?
À peu près. C'est une sorte d'événement qui arrive très peu souvent ou qu'on voit pas arriver. C'est pas...
Si c'est ça, vous êtes le premier.
Ouais. Ah ouais.
C'est quoi le prochain Black Swan ?
Bonne question. Ce serait compliqué à dire. Avec l'intelligence artificielle, peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu arriver et qui pourrait changer la société. Bon, en tout cas...
Genre les machines se dressent contre nous ?
Peut-être.
De la météorite de mon chauffeur de taxi en passant par le permafrost qui dégèle à cause du réchauffement climatique, un bug informatique ou encore la perte de contrôle de la technologie que l'on a nous-mêmes créée. En y réfléchissant bien, pour vous, le prochain Black Swan pourrait être finalement le résultat d'une balle qu'on s'est tirée dans le pied.
L'effacement de la dette, voilà quelque chose qui pourrait intéresser Manon, qui lui permettrait d'être à nouveau en vert sur son compte BNP. Ça serait une très très bonne chose en matière de Black Swan. Zoom donc sur les signes noirs de l'histoire, ces événements qui normalement n'auraient pas dû arriver. Et pourtant, Bruno Tertret, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, est avec nous pour nous éclairer là-dessus. On a entendu un mot dans ce micro-trottoir, outlier. Vous avez réagi, c'est un autre mot pour dire signe noir ou c'est encore une nuance?
Non, c'est tout simplement, un outlier, c'est une déviation au sens statistique.
D'accord,
du terme.
Statistique.
C'est-à-dire, imaginez, vous avez une courbe et hop là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe sur la courbe de manière graphique. Ça veut dire la courbe fait un saut en avant, en arrière, enfin dans un sens. C'est un outlier, c'est un événement qui rompt la série statistique.
Ouais.
Voilà.
Elle me
ça s'appelle une déviation.
Une femme d'1m90, par exemple, c'est une outlier. Quand je lui ai demandé, elle me disait que dans la statistique, c'était elle dépassait.
Oui, on peut dire ça comme cela, dans la mesure où cette personne est très largement au-dessus de la taille moyenne. Donc si vous avez par exemple une série de 10 personnes d'1m70, que vous avez une personne d'1m90, elle est l'outlier, la déviation au sens statistique.
On disait que le Black Swan pouvait toucher tous les domaines, on a entendu Vincent en parler. Est-ce que l'IA est un Black Swan? Elle prend énormément de place, l'intelligence artificielle?
Pas en soi, ce qui serait effectivement un événement de type signe noir lié à l'intelligence artificielle, c'est si à un moment il y avait une intelligence artificielle quelque part qui se met à dire papa maman et à faire être capable d'allumer une émission de radio aussi bien que vous.
Ça va venir,
ça va venir. C'est déjà le cas.
Sans qu'on sache que c'est vous.
Et qui vous dit que c'est moi? C'est une autre dimension.
C'est pas faux, mais là encore, il n'y a pas de scénario plus étudié par la science-fiction. Souvenez-vous de la série des Terminator, par exemple. Ben, c'est une intelligence artificielle qui prend le contrôle des systèmes d'information mondiaux.
Donc, il faut le prendre au sérieux, quand même.
Non, ça ne veut pas dire qu'il faut le prendre au sérieux. Ça veut dire que c'est déjà... Ça n'est plus de l'imprévisible,
voilà,
puisque c'est
imprévisible.
Ça ne veut pas dire que ce qui est prévu par la science-fiction est nécessairement d'une probabilité importante. Heureusement, d'ailleurs.
On voit bien que l'humain essaye d'anticiper, en tout cas, cette jeune coordinatrice qui nous parle des scénarios catastrophes qu'elle travaille, Claire, qui nous parle des backups, des serveurs partout sur la surface du globe, on essaie de repousser les signes noirs, on essaie de les éviter, on en a peur.
C'est normal, puisqu'en général, ils ont des conséquences plutôt négatives. Alors, on peut en imaginer certains dont on ne connaît pas du tout les conséquences. Moi, je vous en donne un. Mais ça veut dire, attention, il y a aucune. Je peux pas du tout vous dire s'il va se produire à échéance humaine.
Vous me faites déjà peur.
Non, pas du tout. Imaginez l'arrivée d'un vaisseau extraterrestre. D'accord ?
J'allais vous le dire tout à l'heure.
Bah voilà. Non, mais ça, c'est le thème le plus éculé de la science-fiction. Mais après tout, si un jour ça se produisait, les conséquences seraient phénoménales. Même sur l'esprit humain.
Oui.
Mais est-ce que ces conséquences seraient nécessairement catastrophiques ou négatives? Personne n'en sait rien.
On serait quand même certainement hostile.
Pourquoi? Ah bah non, pourquoi vous dites ça, Quentin?
Ça dépend de l'extraterrestre.
Enfin, imaginez que ça soit... On est vraiment dans un...
On a déjà du mal à cohabiter entre nous, s'il y en a d'autres qui arrivent.
Mais vous savez, alors justement, ça serait intéressant de voir si... Même s'il était perçu comme hostile...
On pourrait se fédérer contre...
Exactement.
Ça, vous savez,
la littérature, c'est pas, elle est utile parce qu'elle nous renseigne sur l'esprit humain. Et la littérature nous dit souvent que face à une menace extérieure, bah, peut-être que ça pourrait fédérer l'humanité. Ou alors, ça serait peut-être une intelligence venue d'une autre planète, une autre étoile plutôt d'ailleurs, et qui nous donnerait accès à des technologies permettant de nous soigner mieux. Nous soigner. On n'en sait rien. Donc voilà un signe noir. Pas complètement un signe noir, puisqu'il est déjà prévisible, mais dont on ne peut pas dire à l'avance quelles seraient les conséquences. J'ajoute que, franchement, moi, je pense que ce scénario est quasiment à la limite de la probabilité, puisque les astrophysiciens, en général, disent que c'est a priori assez difficile, vu notamment les distances qui existent. Hein, ça se mesure en centaines d'années-lumière, voire en milliers ou en millions d'années-lumière. Et donc, l'idée qu'une intelligence aurait évolué, aurait la capacité de venir jusqu'à nous et serait et qu'on serait capable de communiquer avec elle, ça fait quand même beaucoup.
À suivre, quel sera le prochain Black Swan ? On continue d'en parler avec vous, Bruno Tertrais. On se demandera notamment si nos dirigeants doivent ou pas prendre en compte l'irruption statistiquement improbable de ces événements Black Swan dans leurs décisions politiques et si oui, comment ? Ce sera juste après un Zoom Zoom test spécial petit détail quand la petite histoire fait basculer la grande. Oui, une fois sur 200 émissions, le Zoom Zoom test a un titre. Mais tout ça, c'est juste après Marguerite Thiam, comme les grands sur Inter.
Pas envie de démarrer, pas envie de mourir. L'une va devenir tarée, l'autre va dire faut que t'arrêtes. Je m'aime si fort, je me traite si mal. Même si fort, je me traite si mal. Nouvelle lettre, un mauvais rêve. À peine arrivé, y'en a déjà qui partent. Mamie est morte en un courant d'air. Un mort à terre. Quand les darons ne se fatiguent pas, ils se font la guerre, j'ai plus où me mettre. Partir ou renaître, percé par la haine, on finit par s'y voir. Pourquoi cette vie a un goût de merde, goût de merde, goût de merde. Cette vie a un goût de merde. Tous leurs problèmes remis sur moi, j'absorbe la douleur qu'ils s'infligent. Au lieu des mots qui soignent, ma mère n'a qu'un amour à cinq chiffres. Problèmes remis sur moi, remis sur moi. Un peu plus fort, un peu moins nostalgique. Je dois tout faire comme les grands, tout faire comme les grands. Avant qu'on me chef, tout faire comme les grands. C'est le rêve, le tort, maintenant je tiens en tête. Tout faire comme les grands, tout faire comme les grands. Avant qu'on me chef. Tout faire comme les grands, c'est le rêve, le tort. Un coup cœur en folle, ta boîte de tramadol. Trois pompées dans la porte. Maman j'ai tout gâché. J'ai vraiment tout gagné. Faire briller tes yeux jusqu'aux larmes. Pour que tu me regardes enfin. Tu réagis bien trop tard. Tu réagis bien trop tard. Sur mon lit d'hôpital, tout est vide et sombre. J'ai voulu me tuer, j'ai enfin l'impression de vivre. Tous leurs problèmes remis sur moi, j'absorbe la douleur qu'ils s'infligent. Au lieu des mots qui soignent, ma mère n'a qu'un amour à cinq chiffres. Problèmes remis sur moi, remis sur moi. Un peu plus fort, un peu moins nostalgique. Comme les grands, tout faire comme les grands. Avant qu'on me chef. Tout faire comme les grands, c'est le rêve, le tort. Maintenant je tiens en tête. Tout faire comme les grands, tout faire comme les grands. Avant qu'on me chef. Tout faire comme les grands, c'est le rêve, le tort. Tous leurs problèmes remis sur moi. J'absorbe la douleur qu'ils s'infligent. Tous leurs problèmes remis sur moi.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Alors qu'on joue aujourd'hui sur les événements Black Swan, ces événements statistiquement improbables mais qui sont quand même arrivés, je vous propose un quiz sur tous ces micro-hasards qui ont eu un méga impact sur le monde. Jouons au Zoom Zoom Test. Manon, tous les jours vous surfez sur YouTube et vous êtes même payé pour ça. À l'heure où nous parlons, Baby Shark est la vidéo affichant le plus grand nombre de vues, en attendant demain la vidéo dite Malaise TV au karaoké de France Inter. Mais Manon, Quentin, d'après vous, grâce à qui ou grâce à quoi est né YouTube ? Grâce à quelqu'un qui a regardé Dailymotion et qui s'est dit « on peut faire mieux ?» Grâce au téton de Janet Jackson ? Ou grâce à l'oreille d'Evander Holyfield ?
Alors,
c'est ?
Grâce à l'oreille, quand Mike Tyson lui mord l'oreille ?
B.
Pour vous, c'est un téton qui est à l'origine de YouTube.
Je crois que c'est ça.
Vous vous rendez compte de ce que vous dites?
Non, oui, je sais.
C'est la bonne réponse. Oui, 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 sans ce téton, le téton de Janet, la célèbre plateforme vidéo n'aurait peut-être jamais vu le jour. 2004, mi-temps du Super Bowl, dans les gradins, Cyril Lacarrière qui a fait l'aller-retour Paris-Houston en Concorde, se trémousse quand soudain, alors qu'elle danse aux côtés de Justin Timberlake, le chemisier de Janet laisse entrevoir un téton. Certains ont eu le temps de le voir, d'autres non. Le lendemain, trois hommes qui bossaient pour PayPal à l'époque veulent retrouver l'extrait vidéo. Impossible. Du coup, pragmatique comme seuls les Américains savent l'être, ils démissionnent pour créer un site sur lequel les gens pourront uploader leurs vidéos. YouTube était né. Mais attention, top. On remonte le temps jusqu'en 1918. La Première Guerre mondiale touche à sa fin. Dans le camp, et non pas à son 20, ça sera après, dans le camp anglais, on sait que la victoire est acquise, on jubile, sauf que voilà, on se relâche aussi. Et c'est comme ça que, connement, un soldat anglais trop gentil, trop charitable, va se rendre responsable de la mort de 140 frères d'armes, 1400 frères d'armes, 60 millions de militaires et de civils.
C.
Bah non, c'est...
Non, non, A, A, A.
B. Bah, B, j'irai un peu plus.
Moi, je vous inciterai à...
C.
Rester sur votre première question. Bonne réponse de Manon Mariani. Décision ayant entraîné la mort de 60 millions d'individus. Voilà qui n'incite guère à la charité. Nous sommes donc fin octobre 1918. Le soldat anglais Henri Tandey raconte au reporter de guerre avoir vu passer dans sa ligne de tir un soldat allemand blessé et désarmé et l'avoir laissé filer car il savait la guerre gagnée. J'ai mis en joue, mais je ne pouvais pas achever un homme blessé, se justifiera-t-il. D'après vous, Manon Quentin, qui était ce soldat allemand?
On l'a. Adolf Hitler.
Et à vol.
À la boulette. J'ai fait la boulette.
Admettra Tadley plus tard. Une histoire dont la véracité pose question, évidemment. On sait juste qu'effectivement, il s'agissait d'un soldat de la 6e division d'infanterie bavaroise à laquelle appartenait le caporal Hitler. Mais était-ce vraiment lui? En tout cas, Hitler lui-même relayait cette histoire. Il conservait un portrait du fameux soldat anglais dans son bureau. Mais attention, retour aux États-Unis. Sans avoir fait les mêmes études que notre invité Bruno Tertrais, sans être expert en géopolitique, je suis sûr que vous avez certainement déjà entendu parler de Barack Obama, le 44e président des États-Unis. D'après vous, Manon Quentin, outre son talent, à quoi Barack Obama doit-il son ascension politique? À Starsky et Hutch? À Star Trek? Ou à Alerte à Malibu?
C'est...
A.
Je vous donne le...
B.
Mais quelle connaissance historique vraiment magnifique. Sans Star Trek, Barack Obama n'aurait peut-être jamais été élu président des États-Unis. Je vous explique, en 97, Star Trek Voyager souffre de mauvaises audiences. Pour relancer la série, les scénaristes inventent un nouveau personnage interprété par une actrice qui s'appelle Jerry Ryan. Jerry, qui passant de plus en plus de temps sur le tournage et de moins en moins de temps à la maison, finit par divorcer de son mari, Jack Ryan, pile au moment où ce dernier se présente au poste de sénateur de l'Illinois. Des détails croustillants sur le divorce s'étalent dans la presse, ruinant sa candidature. Le Parti démocrate doit lui trouver un remplaçant en urgence. Ce sera le jeune Barack Obama.
Incroyable.
Qui, passé par là, sa carrière est lancée. Enfin, vous le savez, Bruno, un autre expert en géostratégie, au moins aussi calé que vous, a dit...
Si les ricains n'étaient pas là...
Salut Michel.
Vous seriez tous en Germanie.
Oh, vous le faites bien, Quentin. Si les ricains n'étaient pas là, on serait tous en Germanie. Mais si on remonte un peu plus loin, nous serions tous en Mongolie. D'après vous, Manon, Quentin, qu'est-ce qui a sauvé notre belle civilisation d'Europe de l'Ouest en 1242? La foi? La peste? Ou l'alcool?
C'est...
Ah oui, bah non, BBB, peste.
BBB, pour une fois que vous ne dites pas l'alcool, ah, Manon, oui, c'était la bonne réponse, la C, Quentin. L'alcool nous a sauvés des Mongols. En 1242, l'Empire mongol est tout proche de prendre la Hongrie. L'Europe va tomber quand soudain, sans prévenir, leurs troupes se retirent en cause la cuite monumentale de leur empereur, Ogegei Khan, le fils de Genghis Khan, qui s'est tellement saoulé le 11 décembre 1241 qu'on l'a retrouvé mort au petit matin. On aurait dit la Marianoche un 1er janvier, témoigneront les médecins qui l'ont ausculté. Résultat, les troupes mongoles sont rappelées le temps qu'on désigne un successeur, le temps aussi pour les Européens de se réorganiser, ouais, de se remettre et de renforcer leur position. Victoire de Quentin Lui.
Merci à tous.
Le génie des signes noirs.
Bravo.
Bruno Tertrais, quand
mais
on est...
Vous savez, pardon, ouais, mais je vous posez un tas de questions intéressantes avec ce petit quiz, parce que c'est ce qu'on appelle le problème de la causalité en histoire.
Oui.
Est-ce que si Hitler avait été assassiné,
c'est l'effet papillon.
Est-ce que voilà, non, c'est l'effet papillon, c'est autre chose. C'est est-ce que il y aurait pas eu un autre Hitler à la place? Est-ce que ça aurait pas pu être pire? Moi, il y a un très bon roman de science-fiction qui a pas été traduit en français et qui, en gros, dit il faut absolument assassiner l'empereur Guillaume II parce que c'est lui qui va déclencher la Première Guerre mondiale. Et donc le type remonte dans le temps, il arrive à assassiner Guillaume II, sauf que quand il revient dans son époque, en fait, c'est deux fois pire. Il y a eu trois ou quatre guerres mondiales depuis, etc. Donc, le problème de la causalité en histoire, est-ce que Barack Obama n'aurait pas émergé, finalement, ou quelqu'un...
Très certainement.
Voilà. Mais... Oui. Non, moi j'en sais rien. Écoutez, on peut pas reconstruire l'histoire. Ouais. C'est pour ça que ce qu'on appelle en prospective le what if, c'est directement le qu'est-ce qui se passerait si. Et ça, c'est un sport parfois pratiqué par les historiens, mais c'est au cœur de la problématique des signes noirs. Comment est-ce qu'on s'y prépare? On se dit voilà, on se met autour d'une table et on se dit qu'est-ce qui se passerait si ceci se passait à l'avenir, alors que les historiens font le what if rétrospectif.
À ce stade de l'émission, normalement, on a compris ce qu'était un signe noir et même on a compris ce qu'étaient les rhinocéros gris. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait politiquement? C'est-à-dire que j'imagine que c'est une notion qui peut servir à ceux qui nous dirigent, mais comment s'en emparer?
Justement, c'est très difficile. Comme on le disait tout à l'heure, les responsables politiques, et c'est bien normal, ils sont consommés par l'urgence du moment. Encore plus aujourd'hui, en 2023, que c'était le cas par exemple en 1913. Si vous voulez, en 1913, un Premier ministre ou un Président de la République avait davantage de temps pour penser à une éventuelle guerre mondiale, on va dire, puisqu'on est en 1913, ou en 1923, si vous voulez, que ça n'est le cas aujourd'hui. Et donc, il faut qu'ils aient des conseillers pour les forcer à réfléchir. Voilà. Et malheureusement, il n'y en a pas toujours beaucoup. Moi, j'ai eu une expérience une fois, quand je travaillais dans un ministère il y a une vingtaine d'années, j'ai essayé, à la demande justement d'un responsable politique, de faire jouer des responsables sur un scénario précis. Je ne vous dirai pas ce que c'était, mais sur un scénario, enfin, je travaillais au ministère de la Défense, donc ça vous donne une idée du type de scénario. Et là, on prévoit le scénario, ça y est, j'ai toutes mes slides, mes trucs, c'est prêt. On a prévu de faire ça un samedi matin, normalement un jour tranquille. Et puis au dernier moment, le grand responsable politique en question, il annule parce qu'il n'a pas le temps. Or, la seule manière de pouvoir non pas prévoir les signes noirs, mais au moins être prêt et y réagir, c'est justement de s'y entraîner, pas forcément sous la forme de scénario très précis, mais en tout cas de réflexion. Et ça, ça a l'air très simple, mais malheureusement, c'est très peu pratiqué par les responsables politiques.
Pour vous, est-ce que c'est dangereux de gouverner avec les statistiques? Parce que c'est ce que font nos hommes politiques. Ils gouvernent avec les statistiques qu'on leur donne.
Écoutez, d'abord, je préfère qu'ils gouvernent avec statistiques que sans aucune statistique. Ensuite, s'il s'agit de dire, moi, je raisonne d'abord avec les événements les plus probables,
c'est
en
mieux.
Soi, c'est pas complètement absurde.
À quel Black Swan avons-nous déjà probablement échappé, selon vous, dernièrement?
Par définition, on peut pas trop le savoir.
Par exemple, à votre avis.
Écoutez, alors, moi, je vais vous donner un de mes préférés, parce que c'est un des scénarios qui n'est jamais arrivé, auquel j'ai beaucoup réfléchi. C'est la Troisième Guerre mondiale. En 2005, il y a un monsieur qui s'appelle Thomas Schelling, qui est un économiste, qui reçoit le prix Nobel d'économie. Il reçoit le prix Nobel, justement, prix Nobel de la paix. Pardon, excusez-moi, je suis en train de m'embrouiller. Je vous la fais plus courte, désolé.
Allons-y.
Et ce monsieur, il dit, moi, je voudrais consacrer mon discours de récipiendaire du prix Nobel à un événement qui n'est jamais arrivé. Et je m'interroge, pourquoi c'est jamais arrivé? Pourquoi est-ce que tout le monde parle de la Troisième Guerre mondiale depuis 50 ans, alors que ça n'est jamais arrivé? Et lui, son raisonnement consiste à dire, c'est parce qu'il s'est passé un truc en 1945 qu'il n'y avait pas avant, c'est qu'on a fait exploser une bombe atomique, et les Japonais, malheureusement, s'en souviennent très bien, Hiroshima, Nagasaki, et que depuis Nagasaki, depuis août 1945, on a peur de la guerre, on a beaucoup plus peur de la guerre, attention, de la très grande guerre, pas de la guerre, malheureusement, qui se pratique presque tous les jours. Et que les dirigeants occidentaux, mais aussi des pays qui sont dotés d'armes nucléaires, finalement, ça les fait un peu reculer. Et c'est ça qui a imprimé dans l'esprit humain quelque chose qui fait que cette fameuse Troisième Guerre mondiale qu'on attend depuis 1947 ou 48, elle ne s'est jamais produite. Et à mon sens, elle a beaucoup moins de chances de se produire, et c'est heureux, aujourd'hui, que ça a été le cas au XXe siècle.
Pour finir sur un tout petit peu de prospective, ça ne sera plus un signe noir si on le dit, mais vous travaillez sur ces hypothèses. C'est quoi l'hypothèse la plus probable entre une guerre entre la Chine et les États-Unis sur Taïwan ou l'implosion de la Russie, statistiquement?
Alors, écoutez, j'ai envie de vous dire, alors effectivement, c'est les deux scénarios, vous ne les avez pas sortis de n'importe où.
Ah non, de vous.
Puisque c'est dans mon bouquin « La guerre des mondes ». Écoutez, je pense que l'implosion de la Russie, dans les 10 ans qui viennent, reste un scénario tout petit peu moins improbable, je suis prudent, un tout petit peu moins improbable qu'une guerre entre la Chine et les États-Unis. En revanche, malheureusement, l'invasion de Taïwan par la Chine à échéance de 30 ans reste un scénario malheureusement assez probable. Et là, il y aurait un risque de guerre.
Vous écoutez France Inter, il est 16h47. Dans quelques instants, c'est Benjamin Tranier qui nous rejoindra pour rire avec les signes noirs. Mais d'abord, je me tourne vers celle qui a J-1 du karaoké France Inter. N'a pas du tout envie de rire. Manon, vous n'avez pas changé d'avis. Ça reste un non ferme et définitif
mais
pour Sous le Vent.
Mais ça a toujours été un non ferme, Quentin.
C'est faux,
Quentin,
vous
mentez. Non, bon. Manon. On reviendra dessus hors antenne, Quentin.
On ne les mettra pas d'accord, mais il y a un règlement de compte hors antenne. Manon, vous n'êtes pas qu'une voix, de toute façon, vous êtes aussi une plume. Chaque après-midi, vous nous guidez dans les méandres des réseaux sociaux et vous revenez sur ce gros bazar du côté de Twitch ce week-end.
Alors, j'avais écrit une chronique vendredi pour vous expliquer les nouvelles règles de Twitch concernant la nudité et la sexualité. Mais voilà, en un week-end, tout a changé. Dans un premier billet de blog publié par la plateforme, il était dit que les streams qui mettront en scène des seins, des fesses ou la région pelvienne seront autorisés, ainsi que la nudité artistique, quel que soit le sexe. Des contenus qui devaient être labellisés contenus suggestifs pour avertir les spectateurs. Conséquence, ces contenus ne seraient pas mis en avant par la plateforme et donc pas mis en page d'accueil comme les streams populaires habituels. Ce changement concernait aussi certaines disciplines. Le striptease, les feuillages, le pole dance et le twerk étaient eux aussi autorisés. Les rapports sexuels, eux, étaient évidemment toujours interdits, qu'ils soient réels, simulés et qu'ils soient représentés sous forme humaine, animée, dessinée ou dans des jeux vidéo. Bref, c'était quand même une petite révolution. À la fin de la première version de ma chronique, je vous expliquais aussi mes inquiétudes face à cette nouvelle réglementation. Je vous disais que ça allait être quand même assez compliqué pour Twitch de modérer tout ça et qu'ils ouvraient la voie à de potentiels abus.
Et je suppose que comme souvent, vous avez eu raison.
Madame. Évidemment, Mathieu, car ces nouvelles règles n'ont même pas tenu 48 heures. Twitch a vite fait machine arrière en annulant tout ce qu'ils avaient mis en place, donc tout ce que je viens de vous citer. Terminer la nudité, qu'elle soit réelle, fictive, dessin, dessinée, animée, on revient au Twitch basique. La plateforme s'est justifiée sur X, elle dit « De nombreux utilisateurs ont créé du contenu qui enfreint notre nouvelle politique. Nous avons travaillé rapidement pour bannir ces contenus. » Les nouvelles règles de Twitch ont donc créé des débordements pendant 24 heures, car des milliers de streams à caractère sexuel ont envahi la plateforme. Certains ont fait des captures d'écran de ce qu'on pouvait y voir et on était à la limite du site pornographique. On y voit des contenus dits artistiques, donc des dessins et des animés, représentant majoritairement des femmes dénudées et hypersexualisées.
Et dites-moi, en même temps, c'était autorisé à ce moment-là, Manon, donc pourquoi tout ce...
Oui, sauf que tout ce que nous avait promis la plateforme n'était pas respecté. Déjà, ces streams étaient pour la plupart mis en évidence sur la page d'accueil, donc facilement accessibles par des mineurs. Et puis, le label contenu explicite, qui était obligatoire, n'était mis en évidence qu'une fois qu'on cliquait sur la vidéo. Ce qui veut dire que quand ces streams sont présentés en miniature sur cette fameuse page d'accueil, on voit le contenu de façon claire, sans jamais avoir un label de mise en garde. Et dernière chose, beaucoup plus grave, la plupart de ces dessins représenter des femmes aux traits très juvéniles, voire enfantins. Beaucoup l'ont relevé. Là, on n'était plus dans la simple nudité qui flirte avec le porno, mais qui flirte avec le pédopornographique.
Oui, donc pas étonnant que Twitch ait fait machine arrière.
Non, le problème, c'est que ces nouvelles règles devaient aussi donner plus de liberté aux streameuses qui sont soumises à une réglementation assez sexiste depuis des années. Pour beaucoup d'entre elles, il y a deux poids, deux mesures avec leurs collègues masculins. Eux peuvent se mettre en torse nu pendant un live sans problème, parler crûment et avoir des propos misogynes, alors qu'elles sont victimes de cyberharcèlement et de censure excessive quand il s'agit de leur corps. D'ailleurs, les règles de Twitch ont toujours été très floues à ce sujet. D'un côté, la plateforme accepte les lives dits hot tub, comme on les appelle, où des streameuses répondent à des questions en maillot dans leur jacuzzi. Mais de l'autre, ils bannissent certaines d'entre elles quand elles font de l'ASMR ou du yoga face caméra sous prétexte que ce sont des contenus sexuels. D'ailleurs, pour montrer ces traitements parfois excessifs, certaines jouent la carte de la provocation. Ça a été le cas la semaine dernière de Morkpi, qui a fait un live topless, mais en mettant la caméra juste au-dessus de sa poitrine, donc sans qu'on voit ses seins, mais ça a suffi pour qu'elle se fasse bannir de Twitch immédiatement. En fait, c'est vraiment cacher ce sein que je ne saurais voir, mais pas trop quand même, parce qu'il faut quand même qu'on fasse de l'audience. Il faut que Twitch trouve une juste mesure, un équilibre, et surtout, qu'elle n'oublie pas de modérer ses contenus.
Merci Manon, et quelque part pour vous dédommager d'avoir écrit une chronique pour rien, je vous offre aujourd'hui votre personnage préféré de Benjamin Tranier, le plus chic, le plus émouvant, Claude Bourbier.
Oui,
juste après Kendra Morris, Domino sur Inter. Dishes.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
Il est l'impresario des plus grands. À son actif, 7 overdoses qu'il considère comme de super expériences à retenter. Il trouve que les centres de désintox manquent un peu d'ambiance. Mais aujourd'hui, il nous parle de son rapport aux catastrophes naturelles. Quel que soit le domaine, c'est toujours un honneur de recueillir le témoignage de Claude Bourbier. Bonjour Claude.
Ouais, pardon. Ouais, allô. Non. Ne me dis pas ce que c'est, Aziz. Ben non, mais c'est le principe d'un Secret Santa, mon Aziz. On sait pas à qui on offre. C'est Aziz, je l'ai invité à mon dîner de Noël. Non, merci. Non, j'ai pas besoin de papier cadeau. Ben comment tu veux que ça s'emballe, les chlamydia? Réfléchis, une seconde, voilà. Allez, bisous là où le Père Noël aimerait bien passer. Bisous. Ça va mon Mathieu?
Oh, voilà, je sais plus.
On voit que c'est la fin d'année, hein. Chez France Inter, ils font une partie de loups-garous géantes, là. À la place des loups-garous, c'est des mecs de droite. Et là, les villageois, ils commencent à soupçonner du monde en bout de table, hein, mon Mathieu? Ça va la figure, ça va? Vous devez être tout excité, là. Il y a bientôt la prime de Noël. Enfin, celle de Mathieu, quoi. Ouais. Allez, il va vous raconter à quoi ça ressemble un réveillon avec de la vraie viande. Vous allez adorer, c'est incroyable. Bon, ça fait un moment que je suis pas venu, là. Ça, vous m'avez manqué, là, parce que j'étais coincé dans un truc de 26 ans, comédien, une galère. Faut jamais vous lubrifier avec de l'alcool à bois, les jeunes. Jamais, ok? Ok, la figure? Bon. À part ça, j'ai passé un super week-end. Ouais, j'aime trop les catastrophes naturelles, moi. À chaque fois qu'il y a un gala de charité ou une levée de fonds, c'est une bonne occasion de croiser des copains du showbiz. Oh, je me souviens du tsunami en 2004. Oh, quel gala de charité exceptionnel. Ouais, chop, hop, hop, hop. Tsunami 4, c'était top. Tout le monde a cru que je m'étais cassé le nez tellement j'avais le tarin plein de plâtre. Oh, c'était incroyable. Là, c'était une vente aux enchères ce week-end organisée suite à un tremblement de dans un pays pauvre. Je sais plus lequel, on n'était pas là pour ça, de toute façon. Là, il y avait tout le showbiz était là. Il y avait la table des humoristes, la table des acteurs, Jamil Le Schlag, ils lui ont donné un tabouret près des chips. Voilà. La vente aux enchères démarre, il y avait le héros de guerre, BHL, il était là. Il a mis sa chemise blanche Saint-Laurent en vente, portée sur le front de guerre, sans gilet pare-balles, juste protégé par sa soif de justice. Mise à prix, 8 euros. 8 euros une fois. 8 euros deux fois. Et là, on sait pas pourquoi, il y a Mathieu Noël qui se lève sobre, même pas schnouffé, et qui crie « J'hypothèque ma maison pour la tunique du libérateur des peuples !» Oh, c'était magnifique. Plein de stars, il y en avait plein. Il y avait David Charvet qui est venu vendre son maillot de bain à l'Hertha à Malibu. Ouais. Ouais. All-in pour Claudius. All-in, moi j'ai tout mis. Par contre, ils vont me le rembourser. Ah, je l'ai reniflé, je vois bien qu'il a été lavé le slibard. Ouais. Bon, tu vas me rembourser, mon Charvet, je te préviens. Il y avait aussi Gaspard Proust, ouais, il a mis en vente sa collection de bottes en 42. 42, c'est pas la taille des bottes, je préfère vous prévenir. Bon, voilà, je vous laisse, là, il y a mon Hubert Schnouf qui doit pas tarder à arriver en bas de la radio. Bon, j'ai peur que Paul Mirabel me prenne ma commande, et Mirabel sous Schnouf, on dirait Sailor Moon, c'est n'importe où. Bon, allez, finalement, je veux bien voir ça. Allez, bisous là où le legging, il fait des bouloches, mes jeunes.
Merci Claude Bourbier, toujours plus chic à chaque fois. Merci Benjamin, toujours en tournée. Merci Bruno Tertret de nous avoir éclairé sur ces Black Swan. Je rappelle votre dernier livre, La guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires aux éditions de l'Observatoire. Et pour vos fans, sachez que 1-2-1-2, votre groupe de rock, de reprise de rock, sera en live le 13 janvier au New Morning. Merci. Ça, c'est de la concurrence pour Benjamin Tranier. Ouais. Merci à tous les amis, Manon Mariani, Quentin Lui, Cyril Lacarrière, que je tenais à féliciter car j'ai trouvé chacune de ses interventions vraiment pertinentes aujourd'hui. Ghislain Fontana était à la réalisation, Baptiste Collion à la technique, en régie La Triplette Magique, Amel Kaldi, Fanny Léonore Crouzet et Cléo Grisper. Demain, Zoom Zoom Zen revient à 16h pour dénoncer ceux qui ont brisé les rêves de Quentin dans le basketball, les perturbateurs endocriniens. Bientôt 30 ans qu'on en parle et pourtant ils sont toujours là. On vous explique comment c'est possible demain.